Et là, hop là. Tov, Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, et on se retrouve pour notre étude hebdomadaire sur des personnages extraordinaires qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué les 150 dernières années et qui sont des Migdal Or, des phares pour nous, pour savoir comment eh bien, on ressuscite le peuple juif au regard de la Torah. Alors, aujourd'hui, on va parler du patron, on va parler du précurseur, on va parler de celui qui a concrètement tout lancé. Alors évidemment, si on commençait à dire « Non mais qui est le premier qui va s'intéresser à Israël ?» c'est Moshe Rabbeinu, évidemment. Mais là, on va parler de quelqu'un qui, effectivement, d'année en année, va devenir tout simplement le précurseur de tout ce que nous sommes en train de mettre en place dans l'État d'Israël retrouvé. Je parle du Rav Shmuel Mohaliver. Le Rav Shmuel Mohaliver, je pourrais simplement le présenter en disant « Il était Chovevé Tzion ». Cette organisation qui était l'organisation qui a en fait été l'introduction à l'organisation sioniste mondiale de Herzl. Mais on va beaucoup trop vite en besogne. Je vous propose de revenir à l'origine parce que pour le coup, la vie du Rav Mohaliver, c'est mamash étape par étape. C'est-à-dire que très souvent, on a des rabbanim qui ont fait des grandes choses, mais c'est à un moment de leur vie. Le Rav Mohaliver, c'est mamash, ça monte, crescendo. Et vous allez voir comment ça termine. En fait, tout commence, il y a de cela quelques années, hein, puisque le Rav Mohaliver, c'est quelqu'un qui va mourir en 1898. Donc, ça veut dire que 1898, il est juste avant le XXe siècle. Il naît en 1824. Et donc, vous comprenez qu'on est vraiment dans la période, le pré-sionisme herzélien. Et donc, tout commence en fait, eh bien, dans une nuit de 1824, dans laquelle, eh bien, la maman du Rav Mohaliver est enceinte. La maman du Rav Yehuda Leib Mohaliver, c'est le papa. Et sa femme, comment elle s'appelle encore sa femme? Rachel, je crois. Rachel? Oui, je crois que c'est Rachel. Bekitso, attendez, je vais vérifier parce que je ne me rappelle plus exactement de son prénom. Le prénom de la maman. Est-ce que je l'ai, le prénom de la maman? Je l'ai noté quelque part. Non, ben je ne l'ai plus. Bon, l'honora. Bekitso, la femme, je crois que c'est Rachel. La femme du Rav Yehuda Leib Mohaliver est enceinte du petit Shmuel et on est quelques jours avant sa naissance, elle fait un rêve dans lequel elle voit un Beit HaMidrash partir en flammes et s'élever dans le ciel dans les flammes. Elle est extrêmement apeurée, elle réveille son mari et lui raconte son rêve. Et le mari lui dit « Rendors-toi chérie, tout va bien. Ça me paraît évident que ton rêve est en rapport avec la naissance très, très, très prochaine de notre fils. » Mais ce n'est pas du tout un rêve triste, bien au contraire, ce rêve est l'élément instigateur, l'élément qui nous préconise un avenir extraordinaire. Notre fils sera le feu de la Torah, notre fils sera celui qui va élever notre peuple à des nouvelles sphères. Et donc, effectivement, le Rav Shmuel Mohaliver naît. Ok. Donc le Rav est encore tout jeune et il est déjà évidemment un passionné d'études parce que son père, dès l'âge de 3 ans, l'emmène avec lui à la synagogue et au Beit HaMidrash et on étudie. On est dans la ville de Lubaki, en Lituanie, c'est à côté de Vilna, et il étudie avec son père. Si bien qu'à l'âge de 4 ans, eh bien, un jour, il est en train d'étudier avec son papa. Et comment vous dire, c'est là qu'en fait tout commence. Il a 4 ans et c'est à ce moment-là que le Rav Mohaliver, le Chovevé Tzion, le phare d'Israël, va commencer sa carrière. Puisqu'il rentre dans la synagogue deux personnes qui ne sont pas de la ville, qui sont de Vilna, qui sont des anciens Talmidei Hagaon Mivilna. et il rentre dans le Bet HaKnesset, Bet HaMidrash de Lubaki, et il voit ce petit jeune de 4 ans étudier avec son papa. Ils disent, mais Bémet, à 4 ans, on ne fait pas venir un enfant au Bet HaMidrash. Et donc, il s'avance et il demande, est-ce qu'ils peuvent parler avec l'enfant? Et le Rav Léoud Aleb lui dit, bah, si vous voulez. Et donc, il dit à l'enfant, mais alors, qu'est-ce que tu étudies, là, en ce moment? C'est quoi tu es en train d'étudier quoi? Il dit, bah, on étudie Chumash. Ah, il a fait Mehod. Et qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Eh bien, on est en train d'étudier le Shlav où Yaakov Avinon a très, très peur de retourner en Eretz Israël parce qu'il a peur que Esav ne le frappe. Et les deux hommes lui disent, mais pourquoi est-ce qu'il a peur? Et le petit jeune Shmuel de 4 ans lui dit tout simplement ce que dit Razal. Mais c'est ça son premier Dvar Torah en public. Il dit, Yaakov avait peur parce que pendant ses 20 ans, il n'était pas là. Omnam, il a fait plein de mitzvot. Aval mitzvah, Yishuv Eretz Israël. La mitzvah d'habitant d'Israël, il ne l'a pas faite. Et celle-là, ils savent la fête. Or, la mitzvah d'habitant d'Israël, et Shkula Keneged Kol la Torah Kula, elle pèse comme toute la Torah Kula. Voilà le premier Dvar Torah en public du petit Shmuel. Mais sa carrière d'orateur, de rav, de Talmid Chacham et de sioniste convaincu, eh bien, va continuer à grandir. Il a 7 ans. Il a 7 ans et il a au Beis HaMidrash. Cette fois, attention, cette fois c'est normal. Il a au Beis HaMidrash, Beis HaMidrash, tu vois, c'est plus étonnant à 7 ans. Il y a des classes et on va étudier. Et à un moment donné, le Melaimed, il vient et il pose une question. Et la question, c'est quand on étudie la paracha de Chaye Sarah, le Melamed, il a une question et il dit, comment ça se fait que la Torah, elle a tellement expliqué tous les Traloued pour que Abraham puisse acheter Meharat Amarpela? Et il dit, voilà, ce sera la question à laquelle on va essayer de répondre demain. Le petit Shmuel rentre à la maison, il réfléchit à sa question et il est autour de la table pour le repas du soir, il entend son père et sa mère discuter. Et de quoi ils discutent, eh bien, les amis? Ils discutent du pogrom qui a eu lieu dans le village d'à côté. Et la maman, la rabbinite Rachel, encore une fois, si je ne me trompe pas, eh bien, s'écrie « Oy vey, eize pogrom, mais quel pogrom ?» Et le petit Shmuel ne sait pas ce que c'est que le mot pogrom. Il demande donc à son père, mais qu'est-ce que ça veut dire pogrom? Son père lui explique. Et il va dormir avec le concept de pogrom d'un côté dans sa tête et la question du Melamed dans l'autre côté de sa tête. Si bien que le lendemain matin, lorsque le prof demandera « Alors, nous, Yesh Tshuva ?» Directement, Shmuel Moaliver se lève et dit « Kvod Harav, Ani Odea, on nous a expliqué en long, en large et en travers comment Abraham a acheté Meharat Amarpela pour nous dire que lorsque Am Israël devra et doit aujourd'hui reprendre possession de la terre d'Israël, eh bien, ça ne se fera pas sans peine. Mais c'est pas parce que ça sera difficile qu'il ne faudra pas le faire. Veigia a et de commencer à le faire. Et voilà, le moment est arrivé de commencer à s'y mettre. Il a 7 ans. Bon, alors il grandit évidemment. Alors, il va étudier dans la yeshiva de Vologine. À 15 ans, il sera marié. Et à 18 ans, Ousmach la Rabbanout, il sera ordonné Rav par Rabbi Yitzhak de Vologine, ni plus ni moins. Le Rosh Yeshiva de Vologine, le fils de Repraim de Vologine. La deuxième génération après le Gaon de Vilna. Donc, c'est pas n'importe quoi, évidemment. Et il retourne essayer de continuer à grandir. Alors, vous allez me dire, il a été ordonné rabbin, bah, il va sûrement être rabbin de communauté. Pas du tout. Pas du tout. Le rabbin Moaliver ne veut pas être rabbin de communauté. Pourquoi il veut pas être rabbin de communauté? Parce qu'il est totalement opposé au nouveau concept qui est en train de se développer dans le monde juif. Qui est, eh bien, tout simplement de, comment te dire, bah, d'être payé pour être rabbin. Lui, il préfère travailler pour ne pas recevoir d'argent de la Torah. Et donc, il travaille. Il achète des... Il est revendeur, en fait, de textiles. Et c'est comme ça qu'il est mis de Parnes. Mis de Parnes, très bien, il est très content. Mal à la sorte qu'il va y avoir, pas un pogrom cette fois, mais une mini-révolution là où il habite. Et les rues seront complètement délabrées et les marchés seront également complètement détruits. Et donc, il ne peut plus être mis de Parnes. À ce moment-là, eh bien, il accepte d'être pour la première fois rabbin de communauté. Alors, il va en faire plusieurs des communautés. Il va en faire plusieurs. Pour l'instant, il est juste à côté de là où il a grandi. Il ira plus tard à Radom, il y finira à Varsovie, Bekitsour, Bialystok, et ainsi de suite. Et là, il est rabbin de la communauté. Il est rabbin de la communauté, mais il ne continuera, il ne s'arrêtera jamais, Slicha, d'avoir ce rêve où pour lui, d'abord, le travail manuel est fondamental, et surtout, les connaissances hors Torah sont tout autant importantes pour être des juifs authentiques. Un jour, viendra un des hommes de sa communauté lui dire « J'ai un problème, mon métier c'est d'être prêteur avec intérêt, malvé beribit, la goïm. Mais je ne sais pas quoi faire, j'ai un problème parce que le goï à qui j'ai prêté, il ne m'a pas rendu, est-ce que je lui mets un ultimatum, machin, qu'est-ce qu'il faut faire, Kvod Arab ?» Le Rav Mohaliver lui dit « Mais si seulement les juifs pouvaient arrêter ce métier-là, c'est un métier qui n'est pas bien. » C'est un métier qui est lotov al pi Torah, omnam mutar al lotov. Et il lui ouvre la bibliothèque dans laquelle il y a tous les livres de Torah et tous les livres de science et de littérature de son époque. Et il dit, mais si seulement on pouvait revenir à l'époque des Giboré à Tanakh, de ces gens qui sont marqués dans le Tanakh, qui avaient ben d'abord des connaissances de Torah extraordinaires, qui étaient prophètes, qui étaient également investis dans ce monde-ci et qui avaient également des connaissances énormes dans l'astronomie, dans les mathématiques, dans la physique. Il n'y a qu'à regarder le Talmud pour voir que tous les Chachamim, ben c'est des scientifiques, hein, avant tout. Et donc le Rav Mohaliver lui dit, En malas, Torah echad. Si tu veux dévoiler à Kadosh Baruch Hu, ça passe par tous les prismes, y compris le prisme d'Eretz Israël, lui dit-il. Le Rav Mohaliver termine sa discussion en lui disant, tu sais, Moshe, il s'appelle Moshe le Kalman qui est en face de lui, et lui dit, tu sais, Moshe, viendra un temps, et s'il n'est pas déjà venu, où Am Israël devra redevenir des serviteurs de la terre d'Israël. Tov, non, pour l'instant, on est dans de la discussion, hein, Nachon, on est dans de la discussion, mais les choses vont énormément évoluer quelques années plus tard. Il est maintenant le rabbin de la ville de Radom, et à ce moment-là, nous fêtons dans les journaux, partout, mais alors partout, c'est la folie furieuse, parce que on fête les 90 ans, et c'est marqué dans tous les journaux de l'époque, on fête les 90 ans de monsieur le ministre Moshe Montefiore. C'est les 90 ans de Montefiore. Et ça met en ébullition tout le monde juif. Rav Mohaliver est un fan de ce qu'a fait Montefiore à Jérusalem. Et il est, pour l'anniversaire de Moshe Montefiore, il rassemble toute la communauté de Radom, duquel il est le rabbin, et leur dit, il faut envoyer de l'argent à Maskeret Moshe. Maskeret Moshe, c'était justement l'organisme qui avait été créé par Moshe Montefiore, qui avait pour but d'aider à au peuplement de Jérusalem. Et voilà, le début de la Hitiashvout. On est avant ce qu'on appelle la première alia, évidemment. Le problème, c'est que Maskeret Moshe, au final, ça ne marche pas très bien. Il va y avoir effectivement un quartier à Jérusalem, quelques maisons solitaires, mais ça n'a pas l'ampleur qu'on aurait voulu que ça ait. Mais quelle va être la réaction du Rav Mohaliver dans cette histoire? Eh bien, la réaction, elle est très simple. Les 90 ans de Moshe Montefiore, le début du processus à Maskeret Moshe, doit nous faire comprendre, et c'est ce qu'il dit à la synagogue devant tout le monde, doit nous faire comprendre que le moment est venu pour nous d'y participer. Vous pouvez, chacun d'entre vous, acheter un lopin de terre, et il sera votre terre quand vous arriverez en Eretz Israël. Il est temps de faire quelque chose. Alors, les paroles du Rav sont rentrées dans une oreille. Elles ne sont pas sorties complètement, mais elles ne sont pas loin de sortir. Jusqu'à ce qu'arrive 1881. 5 ans plus tard, 1881, Soufot Banegev. Mazé Soufot Banegev, Rabotai, eh bien, ce sont des pogroms terribles mis en place par le gouvernement russe qui viennent martyriser les communautés juives. Ma Koré Arshav. Nous dit le Rav Mohaliver à ce moment-là, je cite, הרי הקדוש ברוך הוא לא מותיר לנו מקום לספק. הגלות מקיאה אותנו מתוכה. הגיעה השעה לשוב לארץ ישראל, גאולתנו מתחילה. Lorsqu'il voit les pogroms de Soufot Banegev, le Rav Mohaliver dit, voilà, ça y est, הקדוש ברוך הוא ne nous laisse plus de doute. L'exil nous vomit. Donc ça veut dire que c'est le moment de rentrer. Zéou. La Géoula a commencé. Ce qu'on va appeler Atralta de Géoula. Et à ce moment-là, le Rav Mohaliver se dit, moi je participe, hein. C'est terminé. Moi, j'ai dit qu'il faut y aller, donc quand il faut y aller, faut y aller. Et donc, à partir de ce moment-là, le Rav Mohaliver va commencer à sillonner l'Europe. Il va commencer à sillonner l'Europe et il se balade avec une carte. Une carte d'Israël. C'est ça son outil de propagande. Il va dans toutes les communautés et il essaye de parler et de ramener des gens à son idéal. À Varsovie. À Varsovie, il va rencontrer 5 personnes. 5 personnes qui ont été présentées comme étant des jeunes actifs qui ont énormément d'influence. Sauf que lorsque le Rav Mohaliver les voit arriver, ils sont habillés comme des Européens, la méhadrine. Évidemment, personne n'a de kippa, personne n'a de barbe. Ce sont des Juifs complètement assimilés qui arrivent chez le Rav Mohaliver pour qu'il leur explique l'idéal sioniste. Tous se disent, mais il est bizarre ce rabbin. On connaît les rabbins, ils ne parlent pas comme ça les rabbins. Ils sont ksumim, ils sont enchantés, envoûtés par le discours du Rav. Mais finalement, ils disent, non mais c'est pas, ça ne marchera pas. Sauf que lorsque quelques mois plus tard, nous sommes en 1984, en 1800, je me brouillerai tout le cours. 1884, il y a de nouveau des pogroms, cette fois en Pologne. Eh bien, les jeunes commencent à revenir voir le Rav Mohaliver, ces jeunes assimilés en disant, finalement, notre place, elle n'est pas ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et le problème, c'est que pour l'instant, le Rav Mohaliver a mis en avant son idéal. Il est en train de prôner l'idéal, mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait, il y a là, concrètement. Le Rav Mohaliver comprend que concrètement, maintenant, la balle n'est plus dans son camp, mais elle est dans le camp des gens. T'as compris? La balle, maintenant, elle est dans le camp des gens qui ont de l'argent. En Mala Asot, seul, il n'amènera pas des Juifs en Israël. Et donc maintenant, il continue à sillonner les routes de Pologne, les routes d'Europe de l'Est. Mais ce n'est pas tant pour convaincre les gens, car eh bien, de plus en plus de gens sont convaincus par l'idéal sioniste, mais c'est pour ramasser de l'argent. Ramasser de l'argent, pas pour les yeshivas, pas pour... non, pour construire Eretz Israël. Dans une de ses discussions extraordinaires, eh bien, il parle à 2 juifs extrêmement bien... bien comme il faut, tu vois, bien posé dans la communauté juive de Varsovie. Shimon d'un côté, Avraham de l'autre. Et les 2 vont écouter avec patience et avec très grand intérêt ce qu'explique le Rav Mohaliver. Pour finalement terminer en leur disant, Kvod HaRav, c'est lo réali, c'est pas une bonne chose. Mais vous savez quoi, Kvod HaRav, je comprends que vous avez fait un long chemin. Tenez, et il sort une liasse de billets pour le Rav en disant ça couvrira les dépenses du voyage pour que vous puissiez retourner chez vous. Rav Mohaliver lui rend l'argent. Il lui rend l'argent et lui dit Lotzarir, j'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin que tu me donnes toi de l'argent. Comment ça? Eretz Israël, Shomema, mais on va la reconstruire. Donc, j'ai pas besoin que tu me donnes ton argent. À Kol Beseder, je me débrouillerai. Pour la terre d'Israël, je serai prêt à y mettre tout le prix qu'il faut. Et il avance, et il avance. Les deux, finalement, lui donnent de l'argent. Mais même si ce sont deux personnes parmi les riches de la communauté, Zekesef Katan, au final, c'est peanuts, comme on dit en arabe. Zekesef Katan, on n'arrivera à rien en allant voir monsieur un tel, qui ont un peu d'argent. Si tu veux créer quelque chose d'aussi puissant que Chovev et Tzion, que l'État d'Israël, il te faut, voilà, tu n'y arriveras pas tout seul. Et à ce moment-là, le Rav Mon Haliver reçoit un message. Il reçoit un message d'un autre rabbin. Il reçoit une lettre d'un autre rabbin qui lui dit « Il faut maintenant que tu viennes me rencontrer. » Ce rabbin, en l'occurrence, il n'habite pas en Pologne, il n'habite pas en Lituanie. Il s'appelle le Rav Tzadok HaKohen. Ou alors, pour les intimes, Zadok Khan. Le grand rabbin de France. Le grand rabbin de France, Tzadok Khan, qui vient et qui dit, il envoie une lettre au Rav Mon Haliver, il dit, il faut que tu viennes me voir, c'est à Paris que ça va se décider. C'est à Paris que ça va se décider. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'il y a quelques semaines de cela, deux hommes sont venus demander la bénédiction du Rav Tzadok HaKohen. Ces deux hommes, vous les connaissez bien, c'est d'un côté le baron Edmond Binyamin Zeev de Rothschild, et le deuxième, c'est le baron Maurice de Hirsch. Et les deux viennent avec comme objectif de, vous connaissez, de construire un pays, une autonomie en Argentine. Et les deux sont dans le programme et ils viennent demander la bénédiction du Rav Tzadok. Rav Tzadok HaKohen, Rav Tzadok Khan, dit, mais enfin pourquoi Argentine? L'Argentine s'est échangé une galoute contre une autre galoute. Rak Eretz Israël. Alors, on sait malheureusement que le baron de Hirsch, lui, restera sur son idée d'Argentine. Mais le baron de Rothschild, ça commence à faire son bonhomme de chemin sur Israël. Et donc, le Rav Khan dit au Rav Mon Haliver, tu dois venir et tu dois parler avec le baron de Rothschild. Et il a une entrevue. Il a une entrevue, il va commencer à parler avec le baron. Et là, comment te dire? Il va tout donner. La discussion au départ, d'après le baron, aurait dû être courte. Parce qu'on lui présente un rabbin venu d'Europe de l'Est qui veut absolument rencontrer le baron. Il en a des comme ça tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils demandent tous ces rabbins? Ils demandent de l'argent pour leur communauté, pour la synagogue, le mikvé. Et là, le Rav Mon Haliver se tient devant le baron de Rothschild et lui dit, je cite, « Batouach ani » Je suis certain que tu as plein de gens qui viennent te voir et te demander eh bien, une aide financière. Et ces gens qui viennent te demander, ils ont préparé un discours, mais super bien rodé et huilé, pour finalement que tu leur viennes en aide. Achani lotichnanti neum marchim. Dis-le Rav Mon Haliver, moi j'ai pas prévu un grand discours. Bati levakesh mimcha shetishtatev bemitzvah gdola shel yishuv eretz Israël. Je suis juste venu te demander de participer à la mitzvah de Yishuv eretz Israël. C'est extraordinaire. Et deni echol levate et achashivut ha'atzuma le mesimazo. Je peux même pas t'expliquer l'importance de cet idéal. Bekitso, il continue en lui parlant de Moshe Rabbeinu, de Yoshua, et lui dit qu'il peut maintenant s'inscrire dans la ligne droite de tous ces gens qui ont aidé le peuple juif à s'installer en terre d'Israël. Et à ces paroles, les amis, le baron de Rothschild, ou Nishbar, il dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je veux bien, tu lui dis, il faut amener en terre d'Israël, comment? Et là, le Rav Mon Haliver se retrousse les manches et dit, אני אמצא לך יהודים שיגרמו לזה לעבוד. Moi, je te trouver les juifs qui seront capables de mener à bien la mission. Parce que la mission, elle est très simple. Le baron de Rothschild, il ne dépense pas son argent comme ça. Il dit, OK, tu dois me trouver 10 juifs qui sont prêts à monter en Israël et qui vont commencer à travailler à la terre d'Israël. Période d'essai de 2 mois à partir du moment où vous êtes arrivé en Israël. Et on verra après si je continue à vous aider ou pas, si vous avez réussi un minimum en 2 mois ou pas. Alors, moi, l'hiver, il dit, top là! Fair enough. Et à ce moment-là, mais où est-ce que je vais trouver mes 10 juifs? Où est-ce que je vais les trouver? C'est maintenant ça qu'il a dans la tête. Trouver 10 juifs pour créer le premier village juif en terre d'Israël depuis 2000 ans. Et donc le rabbin Aliver va se rendre en train un peu partout et il va finalement arriver dans la Sibérie actuelle, dans une un patelin, comment il s'appelle le patelin, Pavlova. Pavlova en Sibérie, en Russie blanche actuelle, un village où les conditions de vie sont assez rudes. Il arrive là-bas et tout le monde sait qui est le Rav Moïse Oliver. Donc il est reçu Kavod Gadol, Kavod Melachim. Et il parle le vendredi soir à la synagogue et il prononce son projet. J'ai besoin de 10 hommes qui veulent venir maintenant tester l'aventure avec Israël. Que tout celui qui veut, Motsei Shabbat, il vient dans la maison du Gabaï et moi j'arriverai. Motsei Shabbat arrive. Le Rav Moïse Oliver arrive un petit peu stressé devant la maison du Gabaï, toque à la porte, le Gabaï ouvre. C'est pas 4 personnes, hein, c'est pas 100 personnes, c'est pas 10 personnes. C'est tout le village, hommes, femmes, enfants, qui sont là et qui disent « Nous, on veut monter en Eretz Israël. Zéou !» Bon, mais là, je peux pas vous faire monter tout de suite. Bezrat Hashem, bientôt. Mais si ça marche. Mais là, pour l'instant, le baron de Rothschild, il me finance 10 personnes pour que ça marche. Et les mecs lui disent « Non, mais attends, t'es marrant, mais le baron de Rothschild, c'est pas vraiment la Torah, quoi. » Je veux dire, il fait pas vraiment la Torah. Et si jamais on accepte, et finalement, eh bien, les responsables de Rothschild, ils viennent nous dire, faut travailler Shabbat, faut travailler truc. À partir de ce moment-là, va être signé un accord entre le baron de Rothschild et le Rav Moïse Oliver, que tout ce qui touche de près ou de loin à la Torah, les pkidim du baron, les envoyés du baron de Rothschild, n'ont pas le droit de s'immiscer là-dedans. Tov, nous, maintenant qu'on a les hommes qui ont marché sur des centaines de kilomètres et qui sont finalement arrivés en Eretz Israël, ma Corée, quelle va être la suite du programme? Est-ce qu'ils vont réussir? On va les retrouver, nos hommes qui sont partis à l'aventure. Mais en attendant, l'Europe, moi, l'hiver, ça n'arrête pas. Ils continuent à tracer l'Europe et aller partout. Si bien qu'à un moment donné, il va se retrouver dans la ville de Brisk. Il va rencontrer Ephraim de Brisk. Ephraim, complètement opposé au mouvement sioniste, qui n'existe pas encore, mais je veux dire, Rav Betzion. Rav Moïse Oliver, c'est Rav Betzion. Tout le monde est choqué de voir le kavod qui est fait par Ephraim de Brisk au Rav Shmuel Moïse Oliver. Il dit, c'est pas parce que nos idées ne sont pas d'accord que je ne respecte pas la grandeur de l'homme et la Torah qui est la sienne. Ce serait bien que les rabbins d'aujourd'hui, eh bien, comment dire, apprennent un tout petit peu du comportement de leurs ancêtres. Et je ferme la parenthèse. Bekitsur, Zéasipour. On a dit, maintenant qu'on a les hommes qui sont partis faire le boulot, est-ce que ça a marché? Bien oui. Bah si ça a marché, ça a marché, la méadrine. Les femmes et les enfants sont déjà partis aussi en Israël. La nouvelle Moshava, la nouvelle ville, s'appelle Ekron. Et ils sont comme des fous. Et à ce moment-là, le 18 Cheshvan, Tavresh Memhei, c'est-à-dire, ouais, vous avez bien fait le calcul, bien sûr, vous avez raison, 1885 va être créé ce qu'on appelle Vaad Katowice. En fait, dans la ville de Katowice, qui est à côté de Cracovie, eh bien, il y a une réunion qui est mise en place pour tous ceux qui sont fans d'Eretz Israël. C'est là que va être créé le Vaad Katowice qui deviendra la même année Chovevé Tzion. Seulement, dans cette réunion, qu'est-ce qui va se dire? Eh bien, va se dire une seule chose. Les Juifs de Chutz La'aretz sont pas super motivés. Et à ce moment-là, le Rav Mohalever a une idée de dingue. Il dit, mais évidemment qu'ils n'ont pas beaucoup de... Ils connaissent pas, ils sont pas rattachés à Israël. On va les rattacher. Et donc commence l'opération Etrogim. On va acheter un territoire à côté de Ekron et on va y faire pousser là-bas des Etrogim. Et lorsqu'ils seront prêts, on enverra ces Etrogim à Chutz La'aretz. Ils auront un peu d'Eretz Israël avec eux et c'est ça qui va les faire revenir. Melech Etrogim. Ok ? Le fait que maintenant, les gens... En fait, c'est quoi le projet ? Le projet qui est proposé, c'est tu payes un arbre, on va le planter et tu pourras recevoir de son étrog. Mais lorsque ça se passe, les gens sont comme des fous parce qu'ils reçoivent leur étrog de Jérusalem. Bon, c'est pas Jérusalem, mais c'est l'homme échané. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils reçoivent l'étrog d'Eretz Israël. Eze miftza etrogim. Rav Mohalever est à la tête de ce qu'on appelle Chovevé Tzion. À côté de lui, il y a Yehudaleb Pinsker. Rien, c'est que Pinsker se retire de la vie publique et il faut trouver un remplaçant. Et le grand débat entre le Pélèque religieux de Chovevé Tzion et le Pélèque pas religieux de Chovevé Tzion. Alors, comment on fait? Eh bien, en fait, on fait, c'est très simple. Pendant 3 jours, on se dispute. Pendant 3 jours, personne n'accepte que l'autre soit mis en place comme étant le chef de la Tnoua. Si bien que Vaï Bayom Arevi Biyota Boker, Rav Mohalever est mévater. Il est mévater et il dit j'accepte que les gens qui ne sont pas religieux mettent en place le Yoshev HaRosh. Parce que je ne suis pas prêt à vivre la scission au sein du peuple juif. Tov, nous, Yofi, Az Ma Koré Arshav. Ma Che Koré Arshav, les amis. C'est que l'organisation continue à avancer, à grandir, et il y a de plus en plus de juifs qui viennent en Israël. Ekron a été rebaptisé pour l'occasion, car la période d'examen du baron de Rothschild est terminée, ils ont réussi l'examen, et donc il dit très bien, ce village qui est le premier, il marche, donc j'aimerais bien qu'on lui change son nom, c'est quand même mon argent, et qu'on l'appelle au nom de ma mère. Et donc effectivement, le premier village va s'appeler Maskeret Batia. Avant Zichron Yaakov, avant Rishon, Maskeret Batia. Et le Rav Mohalever est fan des gens de cette ville, de Maskeret Batia. Il est fan d'eux. Pourquoi il est fan d'eux? Mais ils ont réussi. Le rêve bimillénaire, ils l'ont réussi. Seulement, c'est là qu'arrive l'année terrible. C'est la première fois que Am Israël est confronté à la Shemitah. En Eretz Israël. Et tout le monde est conscient que si les agriculteurs arrêtent de bosser la terre pendant 1 an, vu les conditions de l'époque, terminé. Le Rav Mohalever comprend qu'il a ici et là encore une shlichut historique. Et c'est lui qui va inventer le concept de Heter HaMechira. Qu'on a le droit de vendre la terre d'Israël à un non-juif pendant la période de la Shemitah et on la récupérera après. Exactement pareil que ce qu'on fait à Pessah. On vend le Hametz au Goy et tout va bien. Mais Kitzur, le Rav Mohalever va lancer le Poulmous à Shrita. Parce que je dis, il va lancer le Poulmous parce que personne dans le monde orthodoxe de l'époque n'est d'accord avec lui. Et là, c'est la guerre. C'est la guerre, parce que qui va avoir raison? Qui va avoir raison? Le Rav Mohalever qui dit qu'il faut faire la Shemitah qui est le Khata et donc ne pas travailler la terre? Ou alors, les hommes, eh bien, de l'autre côté. Les hommes de l'autre côté, Rabbanei Yerushalayim en tête, qui disent, ma pitom, le Heter HaMechira, il ne marche pas, il est pourri. Et à ce moment-là, tous les villages du baron acceptent le psak du Rav Mohalever de faire la Heter HaMechira, Chutz Mi'Echad. il y a un village qui ne veut pas se fier au Ether. C'est le village de Maskeret Batia, le premier. Les mecs, ils disent non. Nous, le baron, il a signé comme quoi il n'interférait pas dans les ignanimes de la Torah. La Shemitah, c'est la Torah. Et bien que le Rav Moïse Liver va essayer de tout arrêter et de monter, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais il est tellement heureux de voir sa Moshava, de voir son village que lui, il a aidé à créer. Eh bien, ils sont tellement rattachés à la Torah, tellement rattachés à la Torah, que même là où c'était permis, ils n'ont pas pensé à faire une corde. Non. En malasot. Rav Moïse Liver sera toujours un grand fan de ces gens-là qui ont été prêts à tout donner pour réaliser notre rêve. Et puis voilà que, à un moment donné, le Rav Moïse Liver décide de passer encore un cap. Il ne s'agit plus de parler de Jérusalem. Il ne s'agit plus seulement, eh bien, d'aider financièrement Jérusalem. Il s'agit d'y aller. Et pour la première fois de sa vie, le Rav Moïse Liver part en Israël avec, vous vous rappelez du Rav Kook, on n'en a pas encore parlé, mais qui a fait la Massa à Moshavot, qui a fait le tour des communautés. Eh bien, le Rav Moïse Liver, pareil, il fait le Massa à Moshavot avant le Rav Kook. Et sa première tachana, c'est Yerushalayim, évidemment. Évidemment. Yerushalayim, Rabotai. Une fois parti d'Yerushalayim, après avoir vu les Kohanim s'exercer sur le mont des Oliviers, eh bien, il part à Hebron d'abord, il ira à Avot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Véléa. Et donc, une fois être passé par Jérusalem et Hebron, il est plein de force pour commencer à remonter dans le nord. Et à recommencer, eh bien, non seulement à kiffer, il n'y a pas de mal à ça, mais aussi à reconstruire l'identité d'Israël. Et voilà que c'est parti. Massa Moshavot numéro 1, Yatsa la Derech. Énormément de villages vont être visités. Parmi les plus connus, on sait qu'ils vont arriver évidemment dans tous les nouveaux villages, Petar Tikva, Korpinet. Mais la dernière étape sera évidemment à Maskeret Batia. Eh oui, Maskeret Batia, qu'est-ce que je te dis ? Il est fan de cet endroit, il l'a créé de ses mains. Il est tellement heureux de voir des gens qui sont hébreux jusqu'au bout des ongles, mais qui se comportent comme leurs ancêtres dans la pratique de la Torah. Et qui ne renient pas non plus une nouvelle technologie, une nouvelle science, mais sans jamais renier la Torah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Lorsqu'il rentre de sa Massa Béret Israël, les médecins lui disent de se reposer. On est en 1891, les médecins lui disent de se reposer et de prendre un petit séjour thermal pour se remettre un petit peu. Qu'il aille à la ville de Dublin. Là-bas, il y a des sources chaudes, c'est connu. Au moins comme ça, il pourra se reposer un peu, se relaxer. Le problème, c'est que, ben voilà, c'est connu. On sait très vite que Rav Moïse Liver va par là. Et donc, eh ben, les gens partent avec lui, ils ne le lâchent pas. Ils ne le lâchent pas ! Parmi les gens qui vont passer, justement, à cet endroit-là, et durant cette période-là, durant cette période où le Rav Moïse Liver est à Dublin, eh bien, c'est un homme qui fait route vers Israël, qui s'appelle le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Et le Rav Kook écrira Bechol Yom Pokshim Rav Shehu, Lo Bechol Rav, Lo Bechol Yom. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un Rav qui est également Talmid Chacham Atzum et qui est également l'Oba Torah. Afta l'Ereacha Kamocha. Point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne fais pas référence au mec que tu as fait. Ça fait référence à un truc général. Alors voilà. Maintenant, on a parlé, on a mis en place, on a été sur place. Maintenant que le Rav Moïse Liver rentre, il est le rabbin de Varsovie. Il est plutôt jeune. Mais il a toujours un point faible. Son point faible, il est très simple. Dès qu'il y a donc, des gens dans la salle d'attente pour lui poser des questions et qu'il y a un jeune qui arrive, ou alors qu'il y a un sioniste qui arrive, alors on le fait monter chez le rabbin en premier. Et effectivement, arrive un gamin, arrive un petit jeune qui arrive et qui dit « Mais Charles, le garçon lui dit « Mais tu comprends pas, mes chaussures, elles sont pleines de boue. Moi, je suis mythe la bête. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois aller faire Torah Avoda ou est-ce que je dois me concentrer 100% à l'étude ?» C'est Bémetché, là. Réponse du Ramchal à la base. C'est-à-dire que dans Klar Pitre Chochma, c'est ça qui nous enseigne, Alpia Kabbalah. Et le Rav Moaliver va arriver et va donner son conseil à ce petit jeune. Un petit jeune vient le voir, qui a les deux points faibles du Rav Moaliver, c'est-à-dire il est jeune, et donc il passe devant tout le monde. Et en plus, il est visiblement attiré par Chovev Etzion. Visiblement, il est attiré par cette ambiance-là. Le Rav Moaliver le fait rentrer tout de suite dans son bureau et lui dit « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et il lui dit « Ben voilà, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. D'un côté, j'adore étudier la Torah. Et je me dis peut-être qu'il faut que maintenant que j'aille grandir dans la Torah. D'un autre côté, je suis complètement épris de la cause Israël. Donc je me dis, est-ce que c'est le moment pour moi de rentrer officiellement dans l'organisation de Chovev Etzion ? Voilà, c'est... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le Rav Moaliver lui dit, « Ah, mais je vais te dire ce qu'il faut faire. » Tout le monde est persuadé qu'il va lui dire de faire partie de Chovev Etzion. Il dit, « Non, c'est le moment maintenant où tu t'enfermes au Bet HaMidrash et à ta Godel Batorah. » Car ce n'est que lorsque tu seras grand Batora que tu pourras rejoindre l'organisation et que tu pourras influencer énormément. Les amis, cette discussion, alors que le jeune est très jeune, il n'a même pas la quinzaine, elle va avoir une incidence fondamentale. Parce que le petit jeune qui est assis en face du Rav Moaliver n'est autre que le futur Rav Yehuda Leib Maimon à Cohen Fishman. Le Rav Maimon, qu'on a évoqué il y a quelques semaines, qui a dit le fameux Sheikhéyanou historique de la création de l'État d'Israël. Donc vous aurez compris, le Rav Maaliver est en train de poser ses pions pour la suite. Mais il est plus tout jeune. Il est plus tout jeune et il se dit que, ben voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant pour aider encore la cause ? Et à ce moment-là, il reçoit une lettre. Il reçoit une lettre incroyable, on est en 1896. Il reçoit une lettre dans laquelle est mentionné en haut « L'Irvod, Arav, Agaon, Agadol, Arav, Shmuel, Moaliver, Roche, Agudat, Roche, Echovevet, Sion. » Je vous parle en tant que Roche, Agudat Tzion, c'est une nouvelle organisation, et j'ai une grande question. Qui est le Roche de la Agudat Tzion ? C'est un homme qui n'a pas encore beaucoup fait parler de lui, et pourtant, il s'appelle Binyamin Zeev Herzl. Herzl envoie une lettre au Rav Moaliver. Pourquoi ? Parce que son organisation Agudat Zion vient de recevoir une lettre du village de Mishmar HaYarden en Israël, leur demandant de l'aide et de l'argent. Et Herzl écrit au Rav Moaliver, il dit « Toi, je sais que tu sais comment on gère Eretz Israël, tu as été là-bas, moi je ne connais pas bien Eretz Israël », dit Herzl. Dis donc, voilà, je voudrais savoir quel est votre conseil, Kvod Arav. Le Rav Moaliver, lorsqu'il reçoit la lettre, et qui va lui répondre, évidemment. Il dit, « Le kavod yeli la'azor lecha, bechol machetechpatz, je t'aiderai dans tout ce que tu me demandes. » En l'occurrence, il faut que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5 pour les aider. Le contact était pris entre Herzl et le Rav Moaliver. Il y a un kavod énorme de Herzl pour le Rav Moaliver, qui était son précurseur. Et à ce moment-là, quelques j'allais dire mois plus tard, un an plus tard, eh bien, Herzl enverra une lettre qui n'est pas une lettre, mais qui est une azmana, qui est une invitation pour le Rav Moïse Oliver de venir participer au premier congrès sioniste mondial. 1897, à Bâle. Le Rav Moïse Oliver est invité à y participer et également à y parler. À ce moment-là, le Rav est à Bialystok, il est le rabbin de Bialystok et il a vraiment envie d'y aller. Mais tous les médecins du Rav Moïse Oliver lui disent « Non, t'es trop vieux, le voyage va pas te faire du bien, n'y va pas. » Mais lui, il veut y aller quand même. Et finalement, juste avant le départ, il a chopé une pneumonie, je crois, et Vekitsour, il peut pas voyager. Il peut pas voyager, mais il écrit quelque chose. Il écrit le Neum. Le Neum. Il écrit ce qui deviendra plus tard Tzavat Arav Moaliver. Le, comment on dit Tzavat, le testament du Rav Moaliver. Il commence en citant dans sa lettre sera lue, Rabotai, au congrès sioniste. Et dans sa lettre, lorsqu'il commence, il dit « Shecheyanu vekimanu vekiyanu lazemanaze » Et lorsqu'on fait venir tout le contenu de la lettre, on se rend compte de la puissance du Rav Moïse Oliver. Voilà le texte qui est lu après la prise de parole de Herzl. « Ana Hashem, ayez im piyot shluche amecha Israël. Dieu aide-moi à ce que ma bouche dise des choses bénéfiques pour le peuple juif. Bene Tzion Aïkarim, Igia Shah Lifol, l'heure est venue d'agir. Allenu le Shachna et Tatsultan ou même Shelet Turkia, Sheyaf Sheroula Yehudim Liknot Adamot, Velivnot Batim Beret Israël. C'est le moment d'aller convaincre le sultan et d'aller bosser. Zichou Kama Chashuv Sheleolam Tie Benechem Ahava Ve'achva. Rappelez-vous que l'amour et la fraternité entre vous est le plus important. Deu ki chazaratenu l'Eretz Israël et nena rak atzala v'agana et la mitzvat Hashem ashkula keneged kol haTorah. La terre d'Israël, le pays en terre d'Israël pour nous qu'on veut créer n'est pas seulement un sauvetage par rapport aux nations, c'est une mitzvah qui est équivalente aux 612 autres. Le peuple réuni à Bâle, lorsqu'il entend ça, et je vous rassure, c'est la majorité des pas religieux, mais ils sont comme des fous. Il terminera en disant, « Achim Nichbadim, mes frères, Avoda Rabba Lefanenu, nous avons encore un long travail devant nous. Ve'alenu la'avod ve'la'avod bli le'out ou bli heref. On ne doit s'arrêter jamais nos efforts. Alenu la'avod Bliperoud, Be'avag Moura ou Be'ardout Shelema. Nous devons travailler ensemble avec un amour profond et une unité indissociable. Le congrès applaudit et le Rav Moïse Oliver, quelques mois plus tard, le 19 Sivan 1898, le Rav Moïse Oliver décède. Il est enterré là-bas, à Bialystok. Et pendant des années, eh bien, la tombe du Rav Moïse Oliver était finalement un endroit de pèlerinage. À Valmala, à Sot. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis sont arrivés à Bialystok et ont tout détruit. Et ils ont détruit complètement le cimetière juif. Il ne reste plus rien. Enfin, il ne reste plus rien, mais quand même. De la petite masquerette Batia, qui était le premier village construit avec l'approbation du baron, mais surtout par les mains du Rav Moïse Oliver, a bien grandi. C'est une ville. Et puis, Bichlal, Medinat Israël, c'est un sacré pays. Et Bichlal, eh bien, des villes dans le Gouche Dan, il y en a partout. Ça marche. Bien des années plus tard, après la Shoah, dans les années 90, lorsqu'on va pouvoir, après la chute du mur, lorsqu'on va pouvoir aller se balader tranquillement là-bas, eh bien, la famille du Rav Mohalever va essayer de retrouver la trace du tombeau. Et après des jours et des jours de recherche dans les décombres du cimetière de Bialystok, ils trouvent le petit Oel qui abritait la tombe du Rav Mohalever. Et à ce moment-là, la décision est unanime. Tout le monde est d'accord, que ce soit la famille, l'Organisation sioniste mondiale, tout le monde est d'accord. On rapatrie les ossements du Rav Mohalever. Et finalement, eh bien, c'est en avion de combat que le Rav Mohalever sera ramené en Eretz Israël. Et finalement, il sera enterré à Maskeret Batia, le village qu'il a créé de ses propres mains, qui a donné le ton à toute une génération, qui a permis de lancer concrètement, activement, eh bien, la résurrection nationale d'Israël, et qui a permis, Bevoyom, de construire finalement notre pays sur notre terre retrouvée. Le Rav Shmuel Mohalever, le précurseur, celui qui a été le premier à dire, si vous le voulez, ça ne sera pas un rêve. L'anecdote, c'est que cette phrase de Herzl n'était autre qu'une paraphrase d'une des lignes que le Rav Mohalever a écrit à Herzl lors de leur correspondance. Lorsque Herzl lui dit, mais ça paraît être un rêve, la façon dont vous nous expliquez comment faire les choses. Le Rav Mohalever dit à Herzl, si vous le voulez, ça ne sera pas un rêve. Certes, dans les mots du Rav Mohalever, c'était chalom. Im tirtzu, enzo chalom. Herzl aura changé un petit peu et dira, im tirtzu, enzo agada. Seider. Mais tout ça, c'est l'origine de celui qui a été le précurseur, celui qui aura été Harishon Lechoveve Tzion, celui qui aura ranimé eh bien, l'attachement, la volonté de retour du peuple d'Israël qui nous permet aujourd'hui de nous balader le long des rues du Rav Mohalever, le long des quartiers Mohalever, le nom eh bien, de Maskeret Batia, de Kfar Pines, de Petah Tikva, de Kfar Saba, de tous ces villages qui ont vu le jour grâce à l'intervention, pas seulement spirituelle, mais concrète, du Rav Shmuel Mohalever. Erev Tov, Lekulam.
Shkoyach,
Shkoyach. Shkoyach Atzum.